Délicate et fragile, de Neil Jomainci, lu par Patrice Monvel. Cette histoire vous est confiée. Vous en êtes le gardien. Cette responsabilité vous incombe. Sans vous, elle disparaîtra. C'est de cette façon que survivent depuis toujours les choses insignifiantes. C'est presque autant une tâche qu'une forme, pense-t-elle. Mais comment trancher ? Personne ne se préoccupe du sort d'une tâche. C'est un vestige, une empreinte. Quoi que ça ait été, ça appartient au passé. Ce n'est plus parmi nous. Alors qu'une forme, c'est autre chose. Une forme réside là où elle se trouve. Elle s'y insère en un lieu et en un temps. Ce n'est pas un souvenir. Même flou, une forme est un marqueur de concret. À quatre pattes sur la glace, Paul plisse les paupières pour mieux scruter l'objet de sa curiosité. Le froid traverse ses gants. Il monte à travers ses orteils, ses genoux et ses paumes. Ni vraiment forme, ni vraiment tâche. La fillette retire son gant et toque du doigt contre le ruisseau gelé. Celui-ci lui renvoie le son mat des portes condamnées. « Qu'est-ce que tu fais, Paul ?» Adrien, 4 ans, surnommé le minuscule, n'ira pas plus loin. Du haut de son petit mètre, le garçon pèse moins lourd qu'un sac de plumes. Mais Paul lui interdit d'approcher du cours d'eau gelé. Elle se souvient de cette année où les feuilles d'automne étaient tombées si tard. La glace avait cédé sous son poids. L'eau n'était pas très haute, mais ça avait été comme si des centaines de serpents lui avaient mordu les mollets. Elle avait pourtant réussi à s'extraire du trou, puis, trempée jusqu'à la taille, hors d'haleine et frigorifiée, à remonter l'allée en se tenant les cuisses et en claquant des dents. Depuis, chaque jour d'hiver, elle vérifie l'épaisseur de la glace avant de patiner dessus. Le ruisseau, qui dessine une frontière au fond du jardin, n'est pas si loin de la maison, mais c'est plus prudent. « Paul ?» insiste le minuscule en soufflant dans ses mains. L'élève de la fillette touche presque la glace, et à la pensée d'y rester collée, elle se redresse d'un bond. « Il y a quelque chose de pris dedans. Un poisson ?»« Non, c'est plus gros, mais j'arrive pas bien à voir. » Le minuscule se gratte le bonnet du bout des moufles. Il dit que ça l'aide à réfléchir, mais Paul pense que c'est surtout parce qu'il a vu quelqu'un le faire dans un film. « C'est sûrement un truc mort. » Le minuscule finit par hurler. Paul hoche la tête. L'hiver a figé le ruisseau il y a 2 semaines, et jusqu'ici le soleil n'a pas réussi à en venir à bout. Son frère a raison. Qui que soit le prisonnier, celui-ci doit être mort depuis longtemps. « Il n'y a qu'à demander à papa. » Paul le sait, son père n'est pas magicien. Il ne fait pas de miracles et ne réveille pas les morts. Mais d'un, il est son père, et de deux, il possède des outils, ce qui est suffisant pour faire de lui l'homme le plus puissant de l'univers. Il court jusqu'à la porte de l'atelier, qui donne sur le jardin, et l'ouvre en grand. Des feuilles de papier volent à travers la pièce. Mais comme papa est d'habitué, il ne lève pas les yeux de son ordinateur. « Il y a quelque chose dans le ruisseau !» souffle Paul. Papa sourit, comme il sourit toujours quand il n'attendait qu'un prétexte pour qu'on l'arrache à ses obligations. Ses rêves, il les a depuis longtemps remis entre les mains de ses enfants. Fermant le capot de l'ordinateur, il le rejoint aussitôt dans l'ici et maintenant. « Je vais chercher des outils, » dit-il, après que Paul lui ait expliqué la différence entre une forme et une tâche. Papa se charge de la pioche, suivi du minuscule qui marche dans ses pas et le colle comme son ombre. Il traîne la pelle derrière lui et son plat dessine un sillon dans le givre. De son côté, Paul fait attention à ne pas se blesser avec les dents de la scie, qu'elle transporte à bout de bras comme une relique sacrée. « Effectivement, il y a quelque chose, » dit le père en examinant le ruisseau. « Reculez, je vais casser la glace. » Il lève la pioche au-dessus de sa tête et d'un geste clair, fend le ruisseau en deux. La glace craque, proteste, mais au bout du compte finit par céder. Leur souffle forme des nuages d'angoisse et d'excitation. « Adrien, passe-moi la pelle. » Papa grogne tandis qu'il soulève les blocs de glace. Ils s'abattent sur la berge comme des météores. La terre et la poussière ternissent leur éclat, et aux yeux de Paul, c'est le monde entier qui est sali. La fillette voudrait les nettoyer avec de l'eau et une brosse, mais elle sait que c'est idiot, même si elle ignore pourquoi ça l'est. « Je crois deviner de quoi il s'agit, » dit papa en soulevant à hauteur de visage un bloc de glace que la poussière a rendu opaque. Il rejoint les enfants, tire la manche de son pull et frotte la surface de l'écrin. La glace fond tout doucement, et la forme réapparaît comme une chose très ancienne, cachée à l'abri des regards sous une vitrine sale. « C'est ce que les gens du coin appellent un kodama, » explique papa. « C'est un esprit des bois, un élémentaire. »« Un vrai esprit de la nature ?» demande Paul. « Ce n'est pas si étonnant, » poursuit papa. Les voisins racontent que la forêt en est infestée. D'habitude, il ne s'approche pas des villages, mais celui-ci a dû tomber dans la rivière et dériver jusque-là. Le pauvre, il s'est retrouvé pris dans la glace. C'est la première fois que j'en vois un d'aussi près. Alors, il est mort ou pas ? Grogne le minuscule que l'idée du temps qui passe décidément obsède. Papa secoue la tête. On va le ramener à la maison pour vérifier. Paul jubile en silence. Comme beaucoup d'enfants de son âge, elle connaît les esprits de la nature sur le bout des doigts. Elle s'est très tôt pris de passion pour eux et a dévoré la littérature spécialisée, a visionné quantité de documentaires sur Internet et a même demandé à ses parents de soutenir un organisme de préservation. Elle se souvient de cet esprit de l'air aperçu l'année de ses 3 ans et se rappelle encore la manière dont ses innombrables voilures dansaient au gré des courants. Ce jour-là, elle est tombée amoureuse du mystère et de sa rareté. L'évier de la cuisine fume, papa a ouvert le robinet et l'eau coule doucement sur le bloc de glace. Pas de l'eau chaude, surtout pas, de l'eau froide pour éviter un choc. La prison gelée fond lentement et bientôt le corps de l'esprit de la forêt apparaît sous leurs yeux. Il n'est pas plus gros qu'un pigeon et son dos est recouvert d'une fourrure rase de couleur verte qui ressemble à du velours. 2 gros globes font saillie sur son crâne, ce sont ses yeux, explique papa, mais on ne peut pas les voir car ses paupières sont closes. Ses pattes ne se terminent pas en griffes acérées, mais en doigts minuscules. Il ressemble à un tout petit singe vert, mais avec une tête de musaraigne et son pelage lui d'une aura claire et diffuse. « Il est en vie, souffle papa. Je crois qu'il dort. Il doit être épuisé. »« Je n'ai jamais lu que les esprits de la nature pouvaient hiberner. Tu penses que c'est possible ?» demande Paul. Le visage de papa trahit sa stupéfaction. Il ignorait qu'une telle créature pouvait survivre aussi longtemps dans la glace, même si, mi-corps, mi-souffle, les esprits de la nature échappent aux classifications habituelles. Il n'en reste pas moins soumis à certaines lois. On dirait oui, on dirait bien, il faut croire que la nature sait parfois prendre soin de ceux qui l'habitent. Posons-le dans ce carton et laissons-le se reposer à l'abri du chat. Il finira bien par se réveiller. Le minuscule Socrate affiche un air déçu. Le premier parce que l'élémental n'est pas mort, et le second qui se trouve être le chat de la maison, parce qu'il ne pourra pas se mettre la créature sous la dent. De toute façon, aucune chance que l'un ou l'autre parvienne à ses fins. Paul fera barrage, elle sera sa gardienne. « Qu'est-ce que c'est que cette chose ?» demande maman plus tard en rentrant du travail. « Un nouvel ami, » dit Paul, « un ami endormi. » « Comment peut-on être ami avec quelque chose d'endormi ?»« On peut, c'est tout, » répond la fillette qui sait qu'au fond, endormi n'est pas si important quand il s'agit d'un ami. Des jours durant, Paul veille sur l'esprit et reste à son chevet. Quelque chose, elle ignore quoi, l'empêche de lui trouver un nom, comme si lui en attribuer un briserait la distance et le mystère, comme si le respect de ce qui nous rassemble, mais aussi de ce qui nous sépare, était à ce prix. Papa pensait que le Kodama sortirait vite de son état d'hibernation une fois la glace fondue, mais il s'est trompé, ce n'est pas la première fois. Alors, entre les promenades au jardin, les dessins sur la table de la cuisine, les soupirs face aux fenêtres givrées, Paul ouvre la boîte et observe l'esprit dormir. Il semble paisible. Ses côtes se soulèvent lentement à intervalles réguliers, et quand elle le caresse, il lui semble parfois qu'il frémit, de ce qu'elle imagine être le plaisir de se sentir au chaud et en sécurité. Parfois, elle fredonne une chanson, les lèvres closes, pour le bercer. C'est une chanson qu'elle a inventée, ou plutôt qui lui a été soufflée en rêve. Même si elle n'a pas de paroles, elle sait que la chanson parle du Kodama. « Je te dis qu'il est mort !» gronde souvent le minuscule. « Laisse-le dormir !» répond Paul. « Fiche-nous la paix !»« Secoue-le un peu au moins !» Pas question. Alors elle referme la porte du bûcher, là où papa a placé la boîte, près de la chaudière d'où émane une agréable odeur de chaux. Paul sait qu'il existe des choses délicates et fragiles, et que ces choses délicates et fragiles ont besoin de nos yeux pour les voir et de nos mains pour les protéger. Elle sait aussi que c'est parfois notre absence qui garantit leur existence. Elle n'en est pas certaine, c'est d'ailleurs davantage un sentiment qu'une conviction. Mais elle sait savoir certaines choses sur les choses délicates et fragiles, qu'elle serait pourtant incapable d'expliquer. Elle sait juste qu'elle les sait, et c'est la raison pour laquelle elle a jusqu'ici résisté à la tentation de soulever les paupières de son protégé. Elle voudrait tellement admirer ses yeux. Mais ces rencontres-là arriveront en temps voulu. Les choses délicates et fragiles ont un temps qui leur est propre. Elles avancent à un rythme différent du nôtre, comme la respiration douce et cadencée de celui qui se love au fond de la boîte en carton. Les semaines s'écoulent et les nuits s'égrènent, succèdent aux jours légers et aux éclats de rire. Un matin comme un autre, Paul descend au bûcher et trouve la boîte ouverte. Son instinct lui commande d'appeler son père, mais elle en étouffe l'urgence derrière des lèvres scellées. On entend quelque chose gratter derrière les vieux journaux, entassé dans un baril de lessive vide. De sa gorge serrée monte alors un air familier, une litanie fredonnée des choses délicates et fragiles. Une tête ronde surmontée de 2 énormes yeux dépasse lentement l'horizon des journaux, et dans ce regard brille la beauté des choses délicates et fragiles. « Bonjour, » dit Paul. Le Kodama esquisse un sourire. Ses dents et sa bouche sont comme tapissées de lichen aux couleurs passées. Elle lève la main, l'esprit se tasse, sauvage et méfiant. N'aie pas peur. Elle fredonne encore cette chanson qu'ils sont les seuls à connaître. Et l'esprit se redresse, ses narines palpitent. Ça te plaît ? La créature émet un drôle de son, comme un soupir à l'intérieur, et déploie lentement deux voilures au sommet de son crâne. C'est comme si sa tête était pourvue d'ailes, sauf qu'il s'agit de ses oreilles, pense-t-elle. Ses dernières se plient, se courbent et ondoient au rythme de la mélodie. Elle dit « Nous serons amis ». Et tout au fond de ce qu'elle est, de ce qu'elle respire, de ce qu'elle pense, elle sait que rien ne saurait être plus faux que cette promesse en l'air. Mais le temps d'un battement des immenses paupières du Kodama, elle se sent à sa place au beau milieu du monde. Se sentir à sa place dans quelque chose de si grand, ça aussi c'est une chose délicate et fragile. La voiture s'engage sur le chemin qui mène à la forêt. À l'intérieur, Paul et son père restent silencieux. Le plus difficile a été de convaincre le Kodama d'entrer dans le véhicule avec eux. Et l'esprit tremble comme une feuille tant gronde le moteur et grince le levier de vitesse. Ses doigts, délicats et fragiles, s'agrippent au manteau de l'enfant. Et si le printemps n'est pas encore là, on remarque quand même des indices de sa venue prochaine. « On va se garer et couper à travers champs, » dit papa, tandis qu'il arrête la voiture au bord de la route, le long du fossé. D'ici, on peut suivre le ruisseau à pied. À cet endroit, le cours d'eau fend la lande et file se perdre un peu plus loin sous l'ombre des arbres. Le vent chuchote. Il est doux, presque amical. Et sitôt la portière ouverte, le Kodama s'échappe pour s'en emplir tout entier. « Tu es arrivé, » dit Paul. Sans se presser, car il connaît le chemin, l'esprit renifle l'air, traverse la langue d'asphalte et se dirige vers la forêt en longeant le ruisseau. Paul et son père le suivent, à une distance respectueuse. Leurs bottes de caoutchouc collent à la terre mouillée. Celle-ci paraît décidée à les engloutir, alors chaque pas est un combat. Mais le Kodama poursuit son chemin sans se soucier d'eux. « Est-ce qu'il va retrouver sa famille ?» demande la fillette. Papa hausse les sourcils et pèse ses mots. Il n'a pas l'air confiant, mais comme il a expliqué à ses enfants, on ne doit rien garder qui ne nous appartienne pas. « Ils l'ont peut-être attendu, » répond-il. « Sinon, il devra chercher un peu. » Paul ne cache pas son inquiétude. Les esprits de la forêt vivent en communauté, elle le sait pour l'avoir lu, et ils se déplacent souvent pour chercher de la nourriture. Mais l'heure est d'abord aux adieux. Le Kodama trépigne, s'agite, il accélère le pas. « Plus vite !» s'écrie Paul. Mais alors qu'elle s'apprête à supplier l'esprit d'attendre pour lui expliquer que la terre détrempée les ralentit et qu'elle voudrait lui chanter une dernière fois cette chanson qu'il lui a inspirée, son cri s'éteint dans sa gorge. Elle ne lui a pas donné de nom. Comment appelle-t-on quelque chose qui n'a pas de nom ? Elle lève la main, mais il est trop tard. Le Kodama, pressé de retourner chez lui, disparaît derrière un arbre, comme avalé par la forêt. « Il ne s'est même pas retourné, » soupire Paul. « Nos sentiments ne concernent que nous, » explique son père. « La nature a ses propres sentiments. Retournons la voiture. » Mais Paul n'est pas décidé à renoncer. Surtout, elle ne parvient pas à se défaire du poids qui leste son estomac. « J'y vais, » dit-elle. Papa ne répond rien. Les branches craquent sous ses pas, tandis qu'elle franchit la lisière du bois, comme on pénètre dans un lieu consacré. Papa marche derrière elle, tout près. Elle regarde ses pieds. L'ombre des arbres pourrait les effacer du monde, pense-t-elle. C'est une ombre paisible, mais il ne faut pas se méprendre. Son pouvoir d'oubli est immense. En son fort intérieur, Paul bout d'indignation, car la colère en elle a effacé la tristesse. Quelle ingratitude, rumine-t-elle, en se remémorant les heures passées à soigner la créature. Papa s'arrête. Inquiète de ne plus entendre ses pas, Paul se retourne. Son père est pourtant bien là, le nez en l'air, et il pointe du doigt la voûte au-dessus de leur tête. « Regarde !» murmure-t-il. Paul lève les yeux. Ils sont là, innombrables, pas des dizaines ni même des centaines, mais peut-être bien des milliers, assis à califourchant sur les branches noueuses, en silence. Leurs immenses yeux saillants posés sur les visiteurs. Ils sont beaucoup trop nombreux pour que Paul puisse distinguer le Kodama qu'elle connaît de tous ses congénères. Ils se ressemblent tellement qu'ils sont presque identiques. « Laissons-les tranquilles, » dit papa en reculant. « Aujourd'hui, c'est nous qui sommes des choses curieuses. » « Délicate et fragile, » ajoute Paul, en pensée. Et tandis qu'elle et son père rebroussent enfin chemin, un air familier descend des branches nues jusqu'aux oreilles de l'enfant. Les esprits fredonnent la chanson de Paul, et le vent se joint à leur chorale. Cette nouvelle a été écrite par Neil Jomainci dans le cadre du projet Bradbury. Plus d'informations sur son site www.page42.org. Ce texte ainsi que sa version audio sont sous licence Creative Commons CC BY. Plus d'informations www.creativecommons.org.